Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Nous serons en ligne dans un instant de Washington. Donald Trump réactive et avec violence le conflit qui l'oppose à Mexico, précision de Grégory Phillips. Le peuple algérien ne cède sur rien et certainement pas à la tentation d'aller voter le 4 juillet prochain, ce vendredi, marche d'ampleur dans tout le pays. Également au sommaire, en France, les Républicains sur un volcan. Les résultats lumineux de l'immunothérapie dans le traitement des leucémies aiguës chez l'enfant et les lymphomes chez l'adulte, reportage de Tara Schlegel. Invité de cette édition, Wassim Nasser, spécialiste des mouvements djihadistes, auteur d'un entretien exclusif de l'un des cadres d'ACMI, Abou Obeida Youssef Al-Anabi. Le président des États-Unis qui, hier, décidait d'imposer des droits de douane aux importations mexicaines s'en est pris aujourd'hui encore à son homologue en exigeant qu'il, je cite, qu'il reprenne le contrôle d'un pays aux mains des barons de la drogue et des cartels, fin de citation. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador pense à prendre langue avec Washington, mais après l'orage, bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Mathieu.
Grégory, c'est un orage comme les autres ou bien un affrontement, un conflit d'une autre nature?
Alors écoutez, avec Donald Trump, c'est toujours compliqué de savoir, mais il y a une chose qu'on commence à comprendre, c'est qu'à partir du moment où il y a des négociations, le président américain tape très fort dès le début. Si vous avez lu The Art of the Deal, le livre où au milieu des années 80, Donald Trump théorisait le rapport de force dans son métier de promoteur immobilier, eh bien il fait à peu près la même chose. La menace, l'intimidation, là, c'est d'imposer de nouveaux tarifs sur tous les produits en provenance du Mexique, 5% au 10 juin prochain, plus 5% le mois suivant, puis encore 5%, etc., etc., afin de pousser les autorités mexicaines à faire plus contre l'immigration clandestine. Sauf qu'évidemment, cette stratégie est risquée. D'ailleurs, la presse américaine rapporte aujourd'hui qu'à la Maison-Blanche, plusieurs conseillers du président lui avaient recommandé de ne pas se lancer dans une telle aventure, risquée parce que une éventuelle hausse des tarifs douaniers avec le premier partenaire commercial des États-Unis mettrait en péril certes l'économie du voisin mexicain mais aussi l'économie des États-Unis. Je suis pas certain que les Américains seraient très heureux de payer leurs avocats, leurs fruits, leurs légumes, leurs pièces détachées automobiles 25% plus cher. Donc pour répondre à votre question, orage ou conflit d'une autre ampleur, eh bien il faudra attendre le 10 juin prochain pour voir si la Maison Blanche met ou non ses menaces à exécution.
Merci à vous Grégory Phillips en direct de Washington. Tenez une pierre supplémentaire dans le jardin de Donald Trump. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran est resté dans les limites fixées par l'accord de 2015, accord sur son programme nucléaire, qu'il s'agisse de ses stocks d'uranium enrichi ou bien du degré d'enrichissement de ce combustible nucléaire. Malgré de très nombreuses arrestations, le peuple algérien a défilé comme chaque vendredi depuis le 22 février dernier. Deux slogans parmi bien d'autres, pas d'élection avec le gang, pas de dialogue avec le gang et le pouvoir. Le pouvoir que prétend incarner le général Ahmed Gaït Salah réclame ce qu'il nomme des concessions mutuelles en vue d'une présidentielle programmée au 4 juillet. Quelles concessions tense Nassira Dutour, présidente du mouvement du collectif des femmes disparues.
Pour moi, le 4 juillet, c'est pas une échéance. Moi, je ne peux pas.
Il n'y
aura pas d'élection. C'est pas possible d'aller aux élections. Le jour du 4 juillet, il y aura tout le monde dans la rue. Il n'y aura pas d'élection. Tout le monde sera dans la rue, non pour aller voter, mais pour dire non aux élections. Nous ne voulons pas des élections dans l'état actuel des choses. Nous voulons des élections libres et démocratiques. Nous voulons aller aux urnes, mais pouvoir voter sur le candidat de notre choix, pas du candidat du choix des militaires. On veut un système civil. Nous voulons pouvoir choisir nos candidats nous-mêmes. Le principal slogan, c'est « Yitnahaouga ». C'est, si je traduis mot à mot, « ils s'enlèvent tous ». Donc tous doivent partir. Donc on ne veut plus de ce système. On veut qu'ils dégagent tous et qu'ils nous laissent reconstruire notre pays. Nous, spécialement les femmes.
Des propos recueillis par Nadine Epstein. Le Premier ministre de la Nouvelle-Guinée, fraîchement élu, déclare ce soir que son équipe respectera l'accord gazier signé par son prédécesseur avec le groupe Total. L'exploitation des richesses naturelles par le groupe français a profondément divisé le pays avant de déboucher sur une crise politique et la démission de Peter O'Neill il y a 4 jours. C'est aussi, et par-dessus tout, un excellent carburant pour les mouvements djihadistes, ce que ne démentira pas l'interlocuteur de notre confrère de France 24, Wassim Nasser, même si la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est pas sa zone d'influence directe. Wassim Nasser qui est parvenu à obtenir un entretien exclusif de l'un des cadres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abou Obeida Youssef Al-Anabi. Bonsoir Wassim Nasser.
Bonsoir.
Wassim, lors de cet échange, il fut bien sûr question, commençons par ça, des menaces d'ACMI visant la France.
Est-ce que la France est menacée au Sahel? Oui, évidemment. Ça fait partie du discours classique, j'ai envie d'être des djihadistes qui accusent la France de piller les richesses de l'Afrique, d'attiser les conflits ethniques, etc. Et puis lui, il a fait une parallèle, donc Annabi a fait une parallèle entre ce qui s'est passé au Rwanda et ce qui se passe aujourd'hui en Afrique centrale, en s'appuyant sur des témoignages d'officiers français et sur ce qui a été dit dans la presse française dernièrement par rapport à l'opération turquoise. Il avait parlé aussi énormément de la France-Afrique, donc de la période post-coloniale. Il a menacé énormément deux entreprises françaises, qui sont Areva et Total. Il a dit qu'ils allaient s'attaquer aux intérêts français, qu'ils soient économiques ou militaires, Barkhane, bien sûr. Mais d'ici à dire qu'ils projettent des attentats en France, en Europe, François Coligny.
Alors, Wassim Nasser, autre volet de cet échange, les contestations en Algérie et au Soudan. Et là, ce chef du conseil consultatif d'ACMI a des mots assez précis quand il s'agit de nommer les contestataires.
Oui, il soutient en tout cas les manifestations pacifiques et il dit que c'est très bien, que les gens, il faut qu'ils continuent à manifester, qu'il faut se débarrasser de la junte qui gouverne en Algérie. Et ce qui est aussi à noter, il dit que ACMI ne va pas causer du tort à ces manifestations pacifiques. Ce qui veut dire, d'une certaine manière, qu'ils vont mettre en suspens leurs opérations en Algérie contre l'État, contre les représentants de l'État, contre l'armée, en attendant de voir quel serait le résultat de ces manifestations, sans pour autant dire qu'ils n'auront plus recours à l'option militaire. Il dit non, l'option militaire reste l'option, mais il y a d'autres options aussi dans le djihad qui ne sont pas que militaires. Et j'ai posé aussi une question très précise et qui est un peu dans le détail des mouvances djihadistes en lui disant comment vous considérez en tant qu'ACMI les fonctionnaires de l'État? Est-ce que vous considérez l'officier comme le prof à l'école, comme le fonctionnaire, comme le médecin? Et là, il a mis trois catégories. Donc, bien sûr, il y a les militaires, l'organe de l'État, les renseignements, qui considèrent comme cible prioritaire. Puis il a dit que tous les autres, donc les enseignants, les médecins, ne sont pas considérés de la même manière. Et donc là, il marque une vraie différence, par exemple, avec l'État islamique. Il lui dit que les manifestations, ça sert à rien. En gros, et Baghdadi l'a dit lui-même dans son dernière interview vidéo, en disant qu'en Algérie et au Soudan, les manifestants ne savent pas pourquoi ils manifestent. Ils vont remplacer un dictateur par un autre. Et il n'y a que l'option militaire qui vaille. Donc là, on voit qu'Al-Qaïda essaie de capitaliser sur le mouvement populaire, comme ce fut le cas aussi en Égypte à un certain moment, et d'en profiter pour marquer le coup, gagner, entre guillemets, les cœurs. C'est Al-Qaïda fait de la politique. Al-Qaïda essaie de capitaliser sur des dynamiques locales et réussit à le faire. Et la preuve en est au Mali, les conflits ethniques au nord du Burkina. Et donc, il capitalise là-dessus. Parce qu'il faut savoir que les griefs qui existent dans cette région du monde sont là, ils sont bien réels. Donc c'est la rencontre avec ces griefs et cette idéologie djihadiste, et en l'occurrence aujourd'hui Al-Qaïda, qui fait que on passe à une action violente de plus en plus marquée. Et là où il y a des populations qui étaient épargnées par ce djihad sont touchées. Je pense particulièrement aux Peuls. Les Peuls, c'est 40 millions de personnes tout le long du fleuve Niger. Et on voit, alors qu'ils n'étaient pas du tout concernés par ce phénomène, on voit que les djihadistes, que ce soit l'État islamique ou Al-Qaïda, recrutent de plus en plus parmi les Peuls. On voit que les attentats au Grand Bassam, il y avait deux Peuls. L'attentat au Ouaga contre l'état-major et l'ambassade française, il y avait un Peul. Donc on voit que Al-Qaïda fait de la politique, capitalise sur les griefs réels.
D'un tout dernier mot, Wassim Nasser, vous travaillez depuis de longues années sur le mouvement djihadiste. Qu'est-ce que cet entretien vous aura apporté?
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Il explique la relation avec Al-Qaïda centrale, où il dit Al-Qaïda donne des directives et après ACMI fait comme elle peut. Idem pour les autres branches. J'ai posé des questions auxquelles il ne voulait pas répondre sur la relation avec l'État islamique. Et là, il a dit pour la première fois, ACMI se prononce là-dessus en disant les gens qui ont rejoint l'État islamique sont des égarés, mais on est prêt à les reprendre. Donc ça, c'est aussi c'est important. Et il a surtout ouvert une porte dans les négociations pour la libération de Sophie Petronin, une porte qui était fermée depuis décembre 2018. Et il a dit que nous aussi, en parlant de ACMI, on a des vieux, par exemple avec Sophie Petronin, et on a des blessés, et on a des mineurs qui sont emprisonnés par les alliés de la France. Donc ce qui veut dire qu'ils voient leurs ambitions à la baisse. On ne parle plus de rançon, ni de libération de chefs djihadistes. On parle de libération de quelques détenus qui considèrent comme les leurs. Est-ce que ça va vraiment ouvrir quelque chose? On verra, mais c'est à noter en tout cas.
Merci à vous, Wassim Nasser, auteur de L'État islamique, le fait accompli chez Plomb. Il est 22h10, vous écoutez Journal de France Culture. En France, 5 jours après une défaite aux élections européennes, première hémorragie à LR. Une vingtaine de députés, les Républicains, annoncent en effet la création d'un groupe indépendant à l'Assemblée nationale. Parmi eux figure Jean-Carl Grelier, député de la Sarthe.
On va dans le mur et on y va en klaxonnant. C'est peut-être pas la peine d'en rajouter. À un moment donné, posons-nous, arrêtons cette espèce d'entre-soi qui s'organise là ces derniers jours à coups de pétitions, de tribunes. Remettons à plat ce qui a fait l'ADN de l'UMP à l'époque, c'est-à-dire la conjonction entre l'ancien RPR et l'ancienne UDF. Alors notre démarche, elle est celle-là, pour qu'à un moment donné, peut-être, la direction prenne conscience qu'il y a lieu de changer de ligne et qu'on arrête de s'enfoncer à la fois dans les sondages et dans l'opinion, comme on l'a fait depuis 2 ans et plus encore à l'occasion des élections européennes.
Jean-Carl Grelier avec Rosalie Lafarge. Un nouvel intercalaire au dossier de l'affaire Vincent Lambert en état végétatif irréversible depuis 10 ans. Le gouvernement se pourvoit en cassation contre la décision de la Cour d'appel de Paris ordonnant l'arrêt des traitements. Les traitements anti-cancer évoluent et il arrive que l'innovation qui donne et redonne espoir aux patients fasse appel à l'immunothérapie. Il en sera nécessairement question au plus grand congrès mondial consacré à la lutte contre le cancer qui s'est ouvert aujourd'hui à Chicago. Cette immunothérapie, baptisée CAR-T-cells, permet de combattre les leucémies aiguës chez l'enfant et les lymphomes chez l'adulte. Elle était autorisée en Europe l'été dernier et il se trouve que la France est le pays qui a soigné le plus grand nombre de malades. C'est un reportage de Tara Schlegel.
C'est effectivement d'abord une thérapie qui marche, un médicament vivant fabriqué à partir de cellules immunitaires du malade qui sont envoyées aux États-Unis, génétiquement reprogrammées, congelées, puis réinjectées en France. Chez l'enfant malade résistant à la chimiothérapie, la réponse tourne autour de 80%, explique le professeur Catherine Thieblemont qui soigne les adultes à l'hôpital Saint-Louis.
La première patiente traitée avec une leucémie aiguë est encore vivante à ce jour. Et donc on a 7 ans de recul. Et pour les patients présentant un lymphome, on n'a pas encore assez de recul pour savoir combien de temps on peut vivre en rémission complète après ce type de traitement.
Mais vous ne pouvez pas comparer chimio et non chimio.
Vous savez, les statistiques, en fin de compte, ça ne veut rien dire. Parce que vous voyez, par exemple, un premier protocole de chimio très forte que j'ai eu, a priori, les statistiques n'étaient pas mauvaises de réaction. Bon, eh bien moi, ça n'a pas marché. Là, comme vient de dire le professeur Thieblemont, ce nouveau protocole où il n'y a qu'un tiers environ de personnes atteintes de lymphome qui réagissent, eh bien moi là j'ai réagi et je suis en rémission complète. Donc voyez.
Nadine Chopin n'avait plus que 5-6 mois devant elle et la disparition totale de sa tumeur pose la question presque indécente mais indispensable du coût de ces médicaments. Gilead, l'un des 2 seuls laboratoires qui avec Novartis fabrique les CAR-T-cells, négocie en ce moment avec le comité économique des produits de santé. Michel Joly, le patron de Gilead France, revient sur les 3 critères de fixation du prix qu'il établit, lui, à 350 000 euros.
La Haute Autorité de Santé a reconnu le caractère innovant de Yescarta. Le deuxième aussi, c'est tenir compte du modèle très spécifique de ces médicaments qui sont une injection unique. Donc on n'est pas sur un traitement chronique qui va étaler des coûts sur 5 ans, par exemple. On est sur un traitement donc effectivement qui correspond à une seule facturation, j'ose dire. Et puis également le bénéfice qu'il va représenter en espérant qu'effectivement en France on puisse confirmer les 50% de patients vivants au-delà de 2 ans.
Donc tous ces éléments font qu'on arrive à une valeur finalement qui, d'après vous, doit être de 350 000 euros.
Quand on est sur une seule injection, évidemment, on voit le prix de l'intervention puisqu'il n'y a plus aucune intervention après l'injection. Donc forcément, le prix est très visible. Donc je comprends qu'ils puissent questionner. Mais pour autant, il faut bien se rendre compte qu'on parle de quelques centaines de patients en France. Donc quand vous regardez sur la masse investie en France contre le cancer, c'est moins de 0,5% de l'ensemble du coût du cancer.
Effectivement, pour l'instant, les CAR-T-cells dans les lymphomes devraient concerner environ 400 malades adultes chaque année, des malades qui ont résisté à au moins 2 lignes de chimiothérapie. Mais déjà, une dizaine d'essais cliniques sont en cours pour cibler de nouveaux cancers, peut-être demain des cancers solides comme celui du poumon ou du foie, d'où l'importance des négociations sur ces premiers prix. C'est donc une vraie révolution thérapeutique dont Nadine Chopin profite pleinement.
Par rapport à l'autogreffe, je me suis remise beaucoup plus vite. Il y a 4 mois, au bout de 4 mois, j'étais déjà en vacances, en train de me baigner dans la mer, voilà. Et déjà, informe, même si j'avais quand même des goûts de fatigue. Et quand une aventure comme ça vous arrive, parce que c'est une aventure, comme moi, je suis en mission complète, mais ça peut revenir, je ne sais pas quand. Donc, eh bien, voilà, je me lève le matin et je profite de toutes les belles choses de la vie et j'aime tout le monde et j'ai envie d'aider tout le monde. Et parce qu'il n'y a que ça qui est important, les relations humaines, la vie, le soleil, la mer et tout. Voilà, donc... On devrait tous y penser avant d'être malade.
Et maintenant, Nadine espère même avoir de moins en moins d'examens à passer.
Le scan est obligatoire ?
Non.
Parce que...
On va arrêter le scanner. Ouais. Hein.
Ah, j'ai bien fait de demander. Ouais. Voyez, encore une bonne nouvelle.
Voilà, reportage signé Tara Schlegel. Demain, au menu, météo, soleil et des températures estivales sur tout le pays. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau à la technique Ludovic Auger.